apiculteurs à Ville-Longue-d'Aude.
Marteau-culteur,
oui.
Passage.
Il va nous parler des abeilles, de son métier, des abeilles. Voilà. Alors, je m'efface. À toi.
Bon. Alors, oui, au début je vais lire un peu, ça va m'aider, et après je vais partir comme ça. Oui, alors pour parler des abeilles, on m'avait demandé il y a un an, je me disais oui, je vais bien trouver un moment. Et c'est vrai que par rapport à la grosse plante, c'est quelque chose de... qui correspond bien en fait. Et du coup j'ai réfléchi comment parler pendant un petit moment mais pas trop longtemps et sans faire un cours. Or c'est très complet, c'est très complexe, c'est une longue histoire, l'histoire des abeilles. Alors ce que j'ai décidé c'est de dire quelques, comme quand on feuillette un livre. Un livre qui raconte une grande histoire, et de feuilleter et de temps en temps de lire une page. C'est-à-dire plutôt que de faire un cours et d'essayer d'en dire un maximum, je vais plutôt dire deux, trois choses sur un élément qui m'a beaucoup plu chez les abeilles. Et à un moment, et puis deux, trois choses à un autre moment. Mais quand même, pour commencer, je vais suivre quelque chose de très scolaire, c'est l'origine des abeilles et le rapport, comment ça s'est fait le rapport entre nous, les êtres humains, et les abeilles. Et en fait, en réfléchissant à ça, j'ai vu énormément de points communs. C'est carrément surprenant, mais on va le voir. Alors, les abeilles, elles sont apparues il y a environ 100 millions d'années. Et... Elle est là, Léo. Ah, Léo. Alors, je me suis permis de prendre un dessin qu'elle avait fait quand elle était au collège. Ça, c'est l'histoire de l'homme. Alors, l'homme, ça remonte à 2 millions d'années. Et ça raconte l'histoire de l'homme. Notamment, on va y venir, la découverte de la démocratie à Athènes. Enfin, d'autres moments importants. Et donc, les abeilles, ça a commencé il y a 100 millions d'années. Et ça a commencé en même temps que quelque chose qu'on appelle les angiospermes. C'est les plantes à fleurs qui font des graines entourées d'une coque. Et en fait, c'est tous les plantes qui font des fruits. Enfin, qu'on appelle fruits, mais les légumes sont des fruits aussi. Et les insectes pollinisateurs sont apparus en même temps que ces plantes-là, puisqu'elles ont besoin d'insectes pollinisateurs. Donc ça a commencé il y a 100 millions d'années. Et précisément Apis mellifica, celle qui fait du miel qu'on connaît, telle qu'elle est maintenant, c'était il y a environ 30 millions d'années. Et 30 millions d'années, c'est ce qui s'est passé. C'est cette abeille qui a une vie sociale. Alors une vie sociale, là c'est dans ce sens-là que souvent on parle de l'abeille domestique, mais c'est pas qu'elle est domestiquée par l'homme, c'est qu'elle a une vie domestique. Alors une vie d'intérieur, là c'est avec tous les dessins, comment elle s'occupe bien de ses bébés, puis comment après elle s'occupe de construire dans la ruche, comment elle va sortir. Et puis il y a aussi une vie sociale, puisque dans une ruche, il y a une entité, et toutes les abeilles vont décider ensemble, et la reine, il y a une seule reine, et les abeilles. Mais ce n'est pas la reine qui décide, ce n'est pas une abeille qui décide, c'est l'ensemble. Et c'est là, on va le voir un peu plus loin, qu'il y a un processus démocratique très évolué. Et nous, on n'a pas réussi à faire aussi bien pour l'histoire. C'est la pagaille complète. Enfin, la pagaille complète, mais disons que, surtout au niveau de toute la planète Terre, il y a encore des soucis. Et là, question prendre des décisions, c'est très démocratique. Par contre, après, question organisation de la vie, c'est assez hiérarchisé, assez autoritaire. On devine à tel âge, on va faire ça, après on fait ça, après on fait ça. Sauf quand il y a des accidents, elles peuvent faire quelque chose qui n'était pas prévu au programme, elles s'adaptent. Donc ça, tout ça s'est mis en route il y a 30 millions d'années. Et en même temps qu'elles avaient cette vie sociale, elles avaient des moyens de se repérer dans l'espace extraordinaires. Là, c'est quelque chose d'unique dans le monde animal. Comment les quantités d'interactions qui se passent pour trouver des endroits à butiner, pour ensuite rentrer à la ruche, le dire aux copines. Et ensuite, les copines vont voir, et c'est là qu'il y a la démocratie. Est-ce qu'on y va ou non? Il y en a d'autres qui disent non, j'ai trouvé mieux ailleurs. Et puis, en fait, chacun trouve, va quelque part d'autre ailleurs. Et les abeilles, elles vont à 3 km environ, un peu plus même. Ça fait environ 3000 hectares. Et elles vont suivre les fleurs qui fleurissent au cours, dans toute l'année, sur ces 3000 hectares. Et ensuite, par ailleurs, elles essaiment, et il y a des ruches qui vont un peu plus loin. Et c'est comme ça couvre la planète, en fait. Bon, voilà, tout ça, ça s'est mis en route il y a 30 millions d'années. Donc, il y a 2 millions d'années, il y a l'homme qui est apparu. Et les premiers contacts entre l'homme et les abeilles, on ne sait pas trop quand ça remonte. Pas loin, ceux qui connaissent une grotte en Espagne, là, Altamira. Il y a des gravures c'était une femme qui grimpe dans un arbre pour cueillir du miel. Bon, c'était une femme qui faisait la cueillette. À ce moment-là, en général. Et donc, déjà là, elle connaissait. Sinon, on a trouvé des dessins, des gravures sur pierre d'apiculteurs ayant des ruches qui ont plus que 5000 ans. Donc, ça remonte vraiment quand même il y a très longtemps. Et là, on sait que, par exemple, au niveau les Égyptiens vivaient beaucoup, connaissaient la cire, le fait que la cire brûlait, vous pouvez faire des bougies, connaissaient le miel, connaissaient la propolis. Il y a une des recettes pour embaumer pour les momies, un des éléments importants dans l'onguent pour embaumer les momies pour qu'elles se gardent dans les pyramides, c'est la propolis, justement. Donc, à partir de ce moment-là, au moins toutes les civilisations un peu évoluées savaient faire avec les abeilles. On savait les utiliser et aussi essayer de les peuplades qui se déplaçaient, déplacer ils avaient des ruches. En général, c'était des ruches plutôt en cylindre. Bon, ils les mettaient sur, par exemple, des dromadaires. Ils savaient qu'il fallait faire la nuit, sinon on perdait des butineurs. Et les abeilles se repéraient de nouveau au nouvel endroit. Donc c'est une grande histoire. Bon, l'être humain, c'est un petit coup d'œil après sur le parcours aux abeilles, qui a découvert, a essayé d'appliquer la démocratie, c'était à Athènes, donc en 350 avant Jésus-Christ. Et puis, bon, il y a eu des hauts de bas dans l'évolution de l'être humain. Et un autre point, oui, il y a quand même un point commun au départ de l'être humain, c'est que l'être humain tel qu'il est actuellement, Homo sapiens, on vient de certaines régions d'Afrique. Or, Apis mellifica, à l'origine, mais bon, 30 millions d'années avant, ça vient également de certaines régions d'Afrique. Et est-ce qu'il y a des raisons pour qu'on vienne tous de là? Je ne sais pas. Et puis un dernier petit coup d'œil sur le rapport entre l'être humain et l'abeille. Ce n'est pas le rapport, mais un point commun. C'est que l'abeille, pour se diriger dans l'espace, elle a l'équivalent d'un GPS incorporé. Un GPS très, très élaboré. On va le voir après. On n'a pas encore tout compris de tout ce qu'il peut apporter comme élément, mais c'est assez extraordinaire. Et ben, nous, on commence à découvrir le GPS, mais il marche pas partout. C'est le petit point commun. Encore un point commun. Oui, une des différences de l'abeille par rapport aux autres insectes de l'époque, c'est que les abeilles, elles ont Apis mellifera, elles ont un cerveau un peu plus développé. Et bon, c'est des tout petits cerveaux. Mais le fait qu'ils soient un peu plus développés permet de notamment toutes ces données de. Pour se retrouver dans l'espace, et puis pour communiquer, et ensuite pour décider, parce que c'est pas de communiquer, mais s'il y a plein d'informations qui arrivent, il faut bien... Il faut trier. Et là, elles ont tout un processus de tri et de décision. Quand il y a des problèmes de choix, il y a deux choix qui sont identiques. En général, il en faut 24 heures, mais en 24 heures, à trouver la solution. Et là, je pense au gouvernement grec en ce moment, ils n'ont pas, pas encore trouvé, malgré qu'il y a un système démocratique pour revenir à Athènes.
Les Belges.
Les Belges, oui, ils sont revenus. Ah non. Ils ont trouvé... Il y a un gouvernement, non ?
Oui, oui, c'est bon. Là.
C'est bon. Mais ça a pris un certain temps, oui. 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 Je vais essayer. Oui, le rapport entre l'homme et l'abeille, en fait, c'est quelque chose quand même qui a toujours été, fasciné l'homme. Enfin, beaucoup de gens se sont penchés, ont observé, et plus ils ont regardé, plus ils ont observé, plus ils ont été attirés par ce... par ce mystère, parce qu'en fait, on pouvait commencer à voir comment elle faisait, mais on comprend pas encore, on ne sait pas encore bien comment elle fonctionne. Et bon, là, je fais un grand écart, qu'on connaît des gens. Bon, alors là, je pense au grand-père de Cécile, qui était en Provence. Et qui était passionné des abeilles. C'est lui qui a fait les planches qui sont là. Alors c'était, je ne sais pas en quelle année c'était.
Il y a 20 ans, voire 30
ans. Oui, c'est ton grand-père quand il a dessiné ça, je pense, voyons. Voilà, monsieur Hugues qui s'intéressait beaucoup aux abeilles, qui a fait un musée d'abeilles sur l'abeille, mais c'est dans les Alpes de Provence. Alors on a... Là, ça a été repris, ça s'est traduit là-bas. J'aime bien ce dessin là, qui est très explicite. Et bon, plus on observe, plus on étudie des choses, plus on voit qu'il y a des outils assez extraordinaires. Là, en lisant sur les antennes, alors radar, les antennes sont utiles pendant toute la vie de l'abeille. Elles lui servent à toucher, mais aussi à sentir les odeurs. Chaque antenne utilise 30 000 impacts radar. C'est au niveau de réception. Et en fait, elles utilisent beaucoup les antennes. D'ailleurs, elles ont des outils pour les nettoyer. Il faut que ce soit toujours opérationnel. Ça va. Donc, elles ont plein d'outils, mais il y a surtout ce côté du cerveau pour analyser toutes ces informations qu'elles ont individuellement et puis qu'elles partagent après. Et ça, c'est l'autre côté extraordinaire. Bon, là, il y a les abeilles, les fourmis, les termites qui ont ce côté-là, de vivre en société. Et donc, il y a en même temps l'individu, qui est remarquable, mais il y a deux individus, en fait. Il y a l'individu abeille, et puis il y a l'individu la colonie. Nous, on dit la colonie. Les Allemands disent le peuple. Et il y a vraiment une vie de la colonie. Les décisions sont prises non pas par un individu, mais par toute la colonie. Par contre, elles ont les initiatives personnelles, chacune.
Jérôme,
oui.
Tu pourrais nous dire plus précisément, pendant deux jours, elles ont tel métier, au quatrième
oui,
jour.
Oui, là, c'est la hiérarchie, c'est
pour les... Vous expliquez, c'est peut-être un peu le...
Ouais. Il y a une hiérarchie pour... Pour la bonne vie de la société, parce qu'en fait, les abeilles ne vivent pas très longtemps. Elles vivent, au moment, quand elles travaillent, elles s'usent, en fait, à les butiner. Parce qu'elles ont une vie d'intérieur, et puis après, elles ont la vie du butinage. La vie du butinage, comme j'ai dit, c'est dans un rayon de 3 km, 3000 hectares de butinage. Elles font, une abeille fait à peu près, dans sa vie de butineuse, elle fait à peu près 800 km. Alors, quand on imagine la petite abeille de faire 800 km, Bon. Mais pour optimiser ce qui se passe à l'intérieur, elles se répartissent les tâches. Alors, les toutes jeunes, comme c'est ceux qui arrivent à lire vont pouvoir bien suivre, nettoient les cellules et chauffent le couvain. Celles qui naissent, elles vont donc s'occuper elles vont nettoyer les cellules là où la reine va pondre. Non, et elles vont garder chaud, parce qu'elles ont un système de... Elles maintiennent toujours 35 degrés dans le couvain. Comme nous, on maintient à 37 degrés dans notre corps. Au niveau du couvain d'abeille, c'est 35 degrés. Alors, s'il fait trop froid, il faut qu'elle maintienne 35 degrés. S'il fait vraiment trop froid, la reine arrête de pondre. Il y a un arrêt de ponte. Et s'il fait trop chaud, elles vont chercher de l'eau et elles évaporent l'eau et elles font l'air conditionné, la climatisation plutôt. Et s'il fait vraiment trop trop chaud, la reine arrête de pondre aussi. Parce que là, s'il fait dans des pays très chauds, on appelle ça l'hivernage d'été. Mais au lieu de l'hivernage d'hiver, quand la reine arrête de pondre, elle se serre les unes contre les autres. L'hivernage d'été, au contraire, elle se garde un espace, mais elle bouge très peu. Et c'est notamment si elles ne peuvent même pas aller chercher d'eau. Donc elles économisent tout. Parce que pour les bébés abeilles, il faut beaucoup d'eau aussi. Ensuite, de 3 ans à 5 ans, elles font ce qu'on appelle le pain d'abeille. Elles mélangent du pollen et du miel. Donc la pâte, là.
3 jours à 4
jours. C'est un jour.
Comment ?
C'est un jour.
Oui, c'est de 3 à 5, à 5 jours, oui. Lorsqu'elles ont 3 à 5 jours. Et ensuite, de 6 jours à 11 jours, là, c'est une période particulière où elles sont capables de faire de la gelée royale. Elles ont des glandes qui vont fabriquer la gelée royale. Et on appelle ça gelée royale parce que la reine va être nourrie exclusivement avec de la gelée royale. Mais les autres n'ont le droit de gelée royale que pendant quelques jours, en fait. C'est les bébés abeilles, les jeunes larves, qui auront droit à la gelée royale. Ensuite, quand elles deviennent un peu plus grandes, elles vont produire de la cire. Là aussi, c'est quelque chose qu'elles produisent, elles le récoltent. Contrairement aux guêpes ou beaucoup, les autres hyménoptères vont faire du papier mâché, ce qu'on appelle un genre de cellulose surtout. Elles vont mâcher ça. L'abeille, elle produit la cire elle-même. Et je dis comme ça parce qu'elles ont des glandes cirières là sur le ventre. Donc elles produisent la cire. Et puis, elles construisent des rayons de cire. De façon, les araignées, elles peuvent faire circuler. C'est des rayons qu'elles ont fabriqués elles-mêmes.
Et elles le produisent par la bouche ?
Non, des glandes cirières. Elles ont des glandes un peu partout. Il y a des glandes cirières ici. Et c'est qu'elles produisent à certains moments. Normalement, c'est plutôt au printemps, quand il fait chaud et qu'il y a du miel. Parce que pour produire la cire, elles consomment beaucoup de miel. Et du miel frais. Et là, c'est mieux du miel frais, c'est pas du miel de réserve. Mais bon, elles en produisent de toute façon quand il faut. Mais c'est surtout l'optimum, c'est au printemps. Et en fait, c'est quand on voit les essaims qui s'en vont. Ils partent avec leur coupe de miel. Et puis, ils vont s'installer quelque part. Et là, ils vont faire ces nouveaux. C'est comme ça que j'ai gardé quelques-uns. C'est dommage, ils en font des très grands, mais je ne les ai pas gardés. Ben, je peux faire circuler. Des types de cire. Donc elles font ça. Elles ne sont toujours pas sorties. Et après, au moment où elles vont bientôt sortir, elles vont à l'entrée des ruches. Alors là, j'ai mis une ruche, mais là, mettons voilà une ruche. Et elles vivent dedans, il y a une entrée. Alors à l'origine, les abeilles, normalement, c'est dans des troncs d'arbres creux. Enfin, c'est ce qu'elles trouvent comme abri. Ça peut être des anfractuosités dans le rocher. Et puis, il y a des gardiennes à l'entrée, parce que c'est une colonie, c'est seulement les gens de cette colonie qui peuvent rentrer. Elles ont leur odeur propre, elles se reconnaissent. Il n'y a même pas seulement les odeurs, il y a plusieurs éléments, on est en train de comprendre qu'il y a carrément presque elles connaissent aussi le code barre, on va dire. Elles ont un moyen de bien déterminer. Si c'est bien une abeille de la colonie. Mais bon, il peut y avoir des abeilles d'une autre ruche qui arrivent si elle vient avec du miel ou du pollen. Là, elles sont d'accord aussi. C'est possible, oui. Oui, c'est bien possible parce que. C'est un système très élaboré, mais assez souple en même temps. Alors, il y en a qui profitent de cette souplesse.
Mais il y a une réaction, parce qu'après, des fois, quand on passe par le sénage jusqu'à la reine, le message est passé dans la ruche. Mmh. Et quand elle revient, elles disent rien, elles laissent rentrer, et puis les petites elles sont dessus.
Ah oui.
Pour pas les laisser sortir, parce que si elles sortent, on va ramener tout.
Ouais. Oui, oui. On appelle ça des pillardes après. Elles viennent pour piller. Et c'est gênant, surtout pour une ruche faible ou un jeune essaim, une ruche en souffrance, oui. Une colonie en souffrance.
Et toutes les abeilles peuvent être gardiennes ou c'est seulement certaines?
Je pense pas qu'il y en a pas tellement qui sont gardiennes, mais il y a un stade où elles peuvent être gardiennes. Et en fait, en même temps, c'est le stade où elles hésitent à sortir ou non, parce que c'est un grand moment, c'est une nouvelle naissance. Elles vivent dans la colonie tout le temps, elles ne sont jamais sorties. Et puis à un moment, elles vont sortir, c'est une nouvelle vie. Là, elles ont leur vie d'intérieur. Et quand elles vont sortir, bon, il faut qu'elles volent. Mais surtout, il faut qu'elles se repèrent, parce que c'est tout petit et elles vont loin. Donc là, il y a tout un travail. Ça prend quelques jours avant de commencer à sortir. Non, les gardiennes, où est-ce qu'il est le dessin là? On voit les deux gardiennes. Je pense, même dans une forte ruche, une ruche avec 50 000 abeilles, je pense qu'il y a toujours en permanence, je dirais, une quinzaine, une vingtaine de gardiennes. Mais il y en a d'autres qui sont prêtes à prendre le relais si c'est nécessaire. Et pour ça, il y a des gardiennes de l'entrée de ruche, et après, ça va un peu plus loin, il y a les gardiennes du couloir de vol. Ça, c'est quand elle trouve un endroit à butiner. Moi, j'ai eu un problème. J'ai mis des ruches dans les corbières. Il y avait un col. J'avais mon boucher là. Il y a un col. Mettons, voilà, il y a le col. Et il y avait la rampe Steka, c'est la rampe maritime, de l'autre côté. Là, il y a une crête. Il y a un chemin. Je manque de peau entre la crête. Et moi, j'ai compris tout ça que 6 mois après. Mais les abeilles de là, elles vont là. Normalement, elles volent au moins 3 mètres, 4 mètres de haut. Comme ça, elles évitent les arbres. Voilà. Donc, nous, ça ne nous gêne pas. Il y a des abeilles dans le village, il y a des abeilles dans Paris. Ça ne gêne personne parce qu'elles volent en hauteur. Mais par contre, si c'est au ras du. S'il y a une crête comme ça, elles ne vont pas aller à 4 mètres de haut s'il n'y a pas d'arbre. Elles vont aller à 1 m50. Alors, si quelqu'un passe à cheval ou en tracteur, il se trouve dans le couloir de vol. Et en plus, il y a des abeilles qui protègent le couloir de vol. Ce qui est très intéressant parce que du coup, elles ne protègent pas seulement pour leur ruche, elles protègent pour le rucher. C'est même un troisième niveau. Là. Et bon, bah, j'ai plus mis les ruches à cet endroit-là. Ou on met plus les ruches, ou on met.
Allez, on met la hauteur.
Ça ne dure pas longtemps, mais oui, on met une haie pour qu'elles passent au-dessus.
Elles se faisaient prendre par les voitures ou qu'est-ce qui se passait?
C'était un chemin. C'est les gens qui. C'est un gars qui allait faire son bois qui me l'a dit. Et en fait, j'ai enlevé les ruches tout de suite.
Et comment elles réagissaient quand il y avait des gens qui passaient, par exemple?
Eh bien, c'est surtout quand on risque de se les prendre dans les cheveux. Ou bien, pour les gardiennes, il n'y en a pas beaucoup, mais là, elles vont piquer.
Oui, parce qu'elles ne s'écartent pas, quoi. Elles restent sur leur couloir de
vol. Oui, elles ont trouvé que sinon c'était compliqué pour elles d'aller ailleurs. Bon, des fois, s'il le faut, elles iraient ailleurs si vraiment il le faut. Mais si elles ont pris l'habitude, une fois que le passage est créé, c'est très dur de changer. Peut-être j'aurais pu faire autrement, mettre par exemple un grand rideau juste pendant 2-3 jours. Et là, elles prennent l'habitude d'aller ailleurs.
Après, oui, barrer le feu.
Passer ailleurs.
Voilà pour la vie. Et bon, et après, donc, elles vont butiner. Et là, c'est pendant un mois et demi l'été. Par contre, en hiver, elles ne vont pas butiner. Donc, c'est des abeilles d'intérieur qui restent, elles peuvent vivre 6 mois, les abeilles d'automne. Donc, c'est important. Pour ces dernières années, là, on a eu des automnes très secs, septembre, octobre. Et c'était mauvais pour les abeilles sauvages ou d'apiculteurs. C'était mauvais pour les apiculteurs aussi. Parce que c'est à ce moment-là que normalement on appelle ça ici le second printemps. Il y a plein de fleurs qui se remettent à fleurir en septembre-octobre. Et puis il y a des variétés de fleurs, lignes visqueuses, enfin il y a plein de fleurs qui fleurissent à ce moment-là. Et là, elles font des abeilles d'hiver qui vont tenir tout l'hiver. Bon là, ces derniers temps, on n'a pas eu ça, donc c'est plus dur pour elles. Et on met ça, le fait que ça se prolonge chaque année, que ça se renouvelle souvent, ces périodes de sécheresse d'automne, On espère que ce n'est pas des conséquences du changement climatique. On n'en sait rien encore, c'est trop tôt. Et qu'on n'est pas, qu'on va pas avoir ça chaque année. Bon, c'est un des multiples éléments. Et puis, donc, elles vont butiner. Et puis après, elles vont... Quand elles butinent, elles s'épuisent, ça dure un mois et demi, et puis elles meurent. Mais les reines, elles pondent beaucoup, jusqu'à 2000 œufs par jour au printemps, une reine. Et donc ça se renouvelle beaucoup. Malgré qu'il y ait, en gros, au printemps, il y a 2000 abeilles qui meurent par jour, et il y a 2000 abeilles qui naissent par jour.
C'est donc, microscopique alors.
Comment ?
Les œufs, c'est microscopique ?
C'est tout petit, on les voit.
On les voit ?
Ah, elle a une faculté de ponte, la reine. Mais ça, c'est pas que la reine d'abeille, les fourmis, les termites aussi.
Oui. Ah bon ?
C'est des facultés de ponte assez incroyables. Quand les conditions sont bonnes, oui. Enfin, 2000 œufs, c'est le maximum. C'est peut-être un peu plus, ou 1000 œufs peut-être. Mais ça peut aller jusqu'à 2000 œufs par jour. Voilà. Donc ça fait du travail, là c'est bien organisé dans la ruche. L'histoire des bébés abeilles, c'est que c'est comme un grand hôpital, quoi, une grande maternité, voilà. Avec couveuses, beaucoup de couveuses. D'où les 35 degrés, d'où l'intérêt de que tout se passe bien, que la reine ponde bien, que comme ça on s'occupe de tout le monde en même temps. Et c'est impressionnant quand on prend un cadre avec des abeilles en train de naître, on en voit 2-3, mais si on laisse le cadre dans un coin, une heure après, c'est couvert d'abeilles toutes jeunes qui se demandent un peu ce qu'elles font là. D'ailleurs, elles voudraient bien se retrouver dans la ruche là. Alors, ce que je voulais approfondir, c'est ce qui se passe pour la butineuse. C'était parce que, comme on ne peut pas parler de tout, et la butineuse. Alors, j'ai ramené quelque chose en exemple. On va voir comment elles font ça. Ça, c'est un cadre vide. Bon, c'est un cadre de hausse. Alors nous on met un cadre en bois, elles pouvaient le faire, mais si on les laisse faire, elles risquent de le faire en travers, on ne peut plus sortir les cadres. Donc on le fait comme ça, qu'on puisse sortir et réutiliser les cadres. Et ça c'est un cadre, c'était hier des ruches sur l'acacia qui a commencé à mieler, j'ai retiré le miel qu'il y avait avant pour mettre des cadres vides, pour avoir du pur acacia. Donc ça c'est un cadre que j'ai retiré de la ruche, il ne faut pas trop le secouer parce qu'il y a du miel frais. Il ne faut pas faire tout comme ça. Mais donc, c'est le même cadre, mais ça, oui, c'est d'accord. Avant, ça, c'est après. Bon, il faut le prendre bien par les oreilles à deux mains, parce que vous allez être surpris. Il y a presque 2 kg de miel là-dedans. Il y a 1,5 kg.
Tu sais combien il y a de petits trous, de pistagones dans chaque...
Okay. Oui. Non, je dirais de... Ben justement, quand je sais que la reine pond 2000 œufs par jour, c'est des grands cadres, enfin des moyens cadres comme ça, 2000 œufs, je pense que ça ferait une phase de 4 2000 œufs. Donc là, c'est peut-être 1000 alvéoles.
Et elles en fondra des deux côtés.
Oui, c'est doublé.
C'est 700 par décimètre carré.
Quand il y a l'œuf qui sort, elle le mettre dans un trou.
L'œuf, la reine, quand elle pond, donc voilà une coupe. Hein. Voilà une reine en train de pondre. Elle pond et elle met son œuf plein au fond de la cellule. Et après, quand la reine va... il y a le cycle de 21 jours pour les ouvrières. Et quand l'abeille va naître, elle sort. Après, il y a des abeilles qui vont tout de suite nettoyer les cellules. C'est celle avec le balai. Et d'autres qui vont s'occuper du bébé, donc. Et en fait, elle nettoie là d'où elle vient.
C'est elle pond un œuf par, pardon. Par un œuf par...
Oui. Par alvéole. Un œuf par alvéole.
Elle se déplace.
Et la reine, elle se déplace, mais il y a toute une cour d'abeilles autour d'elle qui l'aide dans tous ses déplacements. Mais elle fait son travail, mais c'est pas la chef, c'est ça qui est impressionnant. Par contre, elle apporte quelque chose avec des phéromones, on pourrait dire des odeurs, des parfums très particuliers, c'est de la chimie, là, qu'elle répand dans toute la ruche, qui garde une certaine homogénéité. Par contre aussi, ce qui est rigolo, toutes les abeilles de la ruche ont la même mère, mais en fait c'est une grande famille recomposée parce qu'il y a au moins 7 paires différents. Enfin, au moins, je dirais entre 5 et 10. Oui, il peut aller jusqu'à 10 paires. C'est-à-dire que la reine, quand ça sera une reine qui va naître, quand elle va faire son rôle de fécondation, elle va assez loin et elle se fait féconder par plusieurs mâles. Et si quand elle rentre à la ruche, elle trouve que c'était pas assez, elle va ressortir le lendemain, en milieu de journée, et après elle est fécondée, elle a une spermathèque, elle garde le sperme de ses mâles, pendant toute sa vie.
Ah bon ?
Ouais, elle ne sort qu'une fois. C'est quand même assez risqué de déjà de sortir. Et parce qu'elle peut aller loin, elle peut aller jusqu'à 10 km. Vous imaginez une petite reine.
Et elle a une espérance de vie de combien, la reine ?
Ben, la reine, normalement, ben, avant c'était 4-5 ans. Et là, avec beaucoup de changements qu'il y a, c'est plutôt 3 ans. Et il y a même dans certains cas, on préconise de les changer. Enfin, moi, ça, je ne le fais vraiment pas, parce qu'elles peuvent se changer seules. Mais l'ordre de grandeur, c'est ça, entre 2 ans et 4 ans. Et elle ressortira une fois, c'est au moment d'essaimer. Parce que finalement, on a parlé de développement des abeilles, ça s'est développé. Or, une ruche, elle peut renouveler sa propre reine toute seule. Mais il peut y avoir un accident à un moment, un ours qui vient, un humain qui vient, ou n'importe quoi, l'orage,
un blaireau.
Un blaireau.
Ça aime bien le mien.
Oui, ça va la déranger en hiver, et après, elle ne passe plus. Il va pas forcément arriver à la tuer, mais il va la déranger tellement que oui, elle ne passe plus l'hiver après. Les guépiers vont attraper les reines qui vont se faire féconder. Ça. Mais donc, il y a des accidents qui arrivent. Donc, pour se multiplier, c'est là qu'il y a ce qu'on appelle l'essaimage. Qu'on reprend d'ailleurs un essaimage d'entreprise ou un essaimage de... C'est qu'il y a la ruche, un certain temps, en général c'est au bout de 2-3 ans, naturellement, quand les conditions sont bonnes, quand la ruche est bien populeuse, c'est au mois de mai, en plein développement, eh bien il y a la reine, celle qui a l'espérance, la vieille reine, qui va partir avec la moitié des abeilles, qui va chercher un nouvel endroit, et la colonie qui reste va élever une nouvelle reine. D'ailleurs, la vieille reine ne s'en va que quand il y a un nouvel élevage de reines qui a commencé. Comme ça, ça assure un peu la survie de la colonie, là aussi. Et on ne perd pas trop de temps. Et donc, la ruche qui reste, elle perd la reine, mais elle garde ses poulets, son emplacement, ses cadres, et elle va élever une nouvelle reine. Et par contre, la moitié des abeilles qui s'en vont, elles perdent tout, mais elles partent avec la reine. Et c'est ça qui fait que les colonies d'abeilles se développent naturellement.
Et pourquoi alors il manque d'abeilles souvent dans les ruches, si à chaque fois elles créent une nouvelle ruche ?
Eh bien, normalement, quand elles font ça au printemps, elles vont compenser ça assez vite. Normalement, 2 mois après, la nouvelle reine est née. Entre-temps, il y avait quand même des bébés abeilles prêtes à naître. Donc il y a ce cycle de 21 jours. Alors là, la vieille reine s'en va, mais pendant 21 jours, il y aura encore des... Avant de partir, elle pondait encore, au moins jusqu'à 3-4 jours avant le départ. Et là, il y aura des abeilles qui vont continuer de naître. Et bon, c'est vrai qu'il y aura un creux dans le développement, mais normalement, ce creux est rattrapé peu après. En plus, ça donne, les abeilles marchent beaucoup avec certaines énergies, notamment pour les essaims, mais même pour la colonie qui va élever une nouvelle reine. Une fois que la nouvelle reine va pondre, si c'est sain, s'il n'y avait pas de maladie, s'il n'y a pas de virus ou autre, normalement, elles ont vraiment beaucoup d'énergie, elles vont rattraper assez vite. Et d'ailleurs, l'essaim aussi, c'est beau à voir comment un essaim va tout de suite faire ses nouvelles bâtisses. Et elles le font normalement aussi à des moments favorables pour elles. C'est au printemps, il y a des fleurs partout. Même s'il fait mauvais, elles arrivent à se retrouver comme ça.
Vous faites comment une nouvelle ruche vide pour essayer d'attirer
Moi, personnellement, je mets des ruches pièges, notamment tout autour de Villelongue, parce que comme ça, c'est autant pour vous, les Villelonguais, que pour moi, parce que sinon, j'ai beaucoup de coups de téléphone au mois de mai, et puis j'ai un essaim, mais moi, je suis en plein travail, j'ai pas le temps d'attraper un essaim, ou alors c'est des gens qui reviennent après en été, qui ont une maison de vacances, vous savez peut-être que ça, vous revenez dans une maison, vous ouvrez... un volet, une fenêtre, et crac, il y a un essaim qui était là. C'est beaucoup de travail pour le faire aller dans une ruche. Donc, pour ne pas avoir à trop courir, je mets des ruches pièges. Et j'espère, là, c'est aux abeilles de décider. C'est ça que je vais parler tout à l'heure. Comment elles prennent la décision d'aller plutôt là que là.
Et qu'est-ce qui fait qu'il y en a une qui devient reine par rapport aux autres ?
Eh bien, là, c'est toute la colonie qui va décider ça. C'est, elles vont faire une reine quand c'est nécessaire. Et là, au moment où elles trouvent que c'est nécessaire, elles vont choisir celle qui correspond bien à l'âge au moment où elles commencent à faire ça. Oui.
En parlant de ça, pour expliquer que dans les alvéoles, il y a les œufs des futures abeilles, des ouvrières. La reine va naître dans une cellule qui va être à part entière du couvent.
Ouais, après, quand elles choisissent quand elles choisissent que tel œuf va, elles vont le choisir pour faire une reine.
C'est l'œuf qu'elles choisissent.
C'est l'œuf qu'elles choisissent.
Ah, d'accord.
C'est l'œuf. Et bien là, elles vont faire ce qu'on appelle une cellule royale. C'est une cellule beaucoup plus grande. Alors que là, les cellules sont hexagonales et petites. Là, elles vont faire carrément un sac, une grande cellule. La raison, c'est qu'il va y avoir beaucoup de cellules royales. Enfin, des raisons. C'est aussi une forme différente. Voilà, les gens qui s'intéressent à la forme, l'influence de la forme sur le niveau énergétique, c'est important. Et beaucoup de gelée royale. Mais c'est vraiment l'œuf. L'exemple typique, c'est que des fois, pour élever des reines, elles vont prendre l'œuf qui est dans le cadre, là. Mais des fois, notamment, il y a des apiculteurs pour éviter l'essaimage qui vont détruire tous les débuts de cellules royales. Et elles comprennent ça, les abeilles. Et des fois, elles vont prendre les œufs, elles vont les mettre à l'étage au-dessus dans la hausse, même s'il y a une grille à reines d'ailleurs. Elles vont transporter les œufs et elles vont élever des cellules royales. Bon, c'est des cas exceptionnels, mais on peut dire qu'elles ont choisi l'œuf et après elles vont faire la forme. Bon, c'est un cas possible. Peut-être il y a aussi des abeilles qui vont pousser la reine, qui trouvent que la reine devient vieille, qu'il faut qu'elle pense à céder la place, un changement, on appelle ça la supercédure. Et elles vont peut-être faire des débuts d'ébauche de cellules royales. Je ne sais pas si la reine... Là, je ne connais pas assez. Il y a tellement de choses à connaître. Qu'est-ce qui se passe? Mais en tout cas, au départ, c'est le même œuf. Hein. C'est l'œuf d'une ouvrière et l'œuf d'une reine, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et elles vont se dire, bon, celui-là, il me plaît plus. Et puis, c'est le bon moment. C'est soit l'œuf... Soit elles prennent des jeunes larves de un jour ou deux. Et la différence, les jeunes larves, elles ont tout droit à un peu de gelée royale. On ne voit pas, mais vous verrez après. Il y a la larve, et puis il y a un petit truc blanc derrière. Ça, c'est la gelée royale. La larve, au début, elle baigne. Pendant 3 jours, elle baigne dans de la gelée royale. Et si cet œuf est destiné à une reine, il y aura plus de gelée royale. Et surtout, elles vont continuer de nourrir la gelée royale. Tandis que là, on le voit, pour les ouvrières, c'est un mélange de pollen et de miel. C'est pas mal non plus, hein. C'est du pollen lacto-fermenté. C'est pollen qu'elles ont tassé dans les cellules, mais qui est très intéressant au point de vue nutritif.
Et lacto, c'est-à-dire
bah, c'est une fermentation, comme pour la choucroute, d'ailleurs, qui, comme l'ensilage. Mais ça apporte vraiment un plus au niveau de la nourriture pour les bébés abeilles. Elle le tasse avec la tête, elle tasse dans... Je crois que dans ce cas-là, il y a un tout petit peu de miel. Tout petit peu. On peut faire circuler. Il y a un peu de miel cristallisé. Et puis un tout petit peu de pollen qu'elles ont tassé. Parce que nous, quand on récolte le pollen, c'est pas comme ça. Bon, là, il est séché. C'est à l'entrée de la ruche et les pelotes de pollen qu'elles ramènent. Dans les pattes. Dans les pattes arrière. C'est ce qu'on voit là.
Est-ce que c'est... prendre la décision et comment elle se prend, parce que sur les, je sais pas, 30 000 abeilles, oui. Qui est-ce qui décide justement du moment du choix des belles reines et tout? Est-ce qu'on sait ça?
On a des pistes, mais on ne sait pas encore bien. On a des pistes et il y a des théories. Il y a des théories diverses et variées. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'est-ce qui va provoquer. Alors, notamment pour les gens qui ont des ruches, ça se développe bien au printemps. Si on ne met pas une hausse, c'est-à-dire un étage supplémentaire, là, si elles n'ont pas de place, là, c'est à peu près sûr qu'elles vont vite comprendre. Et elles se disent, bon, il n'y a pas de place pour se développer. Ça provoquera l'essaimage. Ça, c'est un facteur déterminant. Mais si on leur donne toute la place, elles vont quand même un moment essaimer. Et finalement, quelque part, c'est pas tellement pour elles, parce que quand même, si elles ont toute la place qu'elles veulent, c'est une grande colonie qui peut devenir encore plus grande. Enfin, normalement, les êtres humains, ils vont pas faire ça, de laisser un endroit bien confortable, une cité de 50 000 individus. Par exemple, Carcassonne, 50 000 personnes, c'est une grosse ruche. C'est une ruche normale, 50 000 individus. Tout va bien, tout fonctionne bien. Et puis à un moment, il y a 25 000 habitants qui vont partir. Comme ça. Oui, c'est difficile à comprendre le pourquoi. Mais par contre, si on prend du recul, pour les abeilles en général, c'est leur manière de... Si elles ne faisaient pas ça, il n'y aurait plus d'abeilles au bout d'un certain temps. Ça compense les pertes. Et quelque part, la nature le sait, là. Mais ce qui provoque, là, il y a encore des recherches. Ce qu'on commence à savoir, c'est comment ça se passe. Alors, c'est là que je tourne un peu autour du pot. J'ai entendu une émission qui m'a rappelé des choses que j'avais apprises avec le temps. C'était très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez une émission à France Inter.
Ah oui, le samedi matin, à 11h.
Il y avait hier, mais c'est vrai que je ne l'ai pas entendu.
Sur les épaules de Darwin.
Oui, sur les épaules de Darwin, ça s'appelle. Il y en avait une il y a 3 semaines, je crois. C'est sur la démocratie des abeilles.
C'est intéressant.
Et il y a eu des recherches faites il y a donc bien longtemps, notamment par un éthologue, Karl von Frisch, sur les abeilles, sur le langage, comment elles communiquaient, comment elles se passaient l'information. Et lui, il a eu un prix Nobel pour ses recherches en 1973, mais c'était les recherches de toute une vie. Et parce qu'il a compris comment elles communiquaient entre elles. Et là, c'est revenu au jour parce que maintenant, d'autres chercheurs ont compris comment elles passaient l'information quand elles choisissaient un notamment pour y s'aimer, pour un endroit où aller. Et c'est comment elle prenait la décision, le pour, le contre, parce qu'il y en avait qui voulaient aller à un endroit, d'autres qui voulaient aller à un autre endroit, d'autres qui disent non, il ne faut pas aller là pour telle raison, d'autres qui disent si, il faut y aller. Et tout ça, c'est en une journée, et puis après, c'est notamment des essaims qu'on voit sur une branche, qui restent là pendant 24 heures avant d'aller à l'endroit définitif. Et là, elles font la danse également, on appelle ça la danse, mais en fait, c'est toute une communication qui se passe. Et elles le font là, à la surface de cette grappe. On dit une grappe d'abeilles, là, dans ces cas-là. Une grappe qui peut avoir 10 000 abeilles, qui sont toutes les unes contre les autres. Alors, la chose de base qu'avait trouvée la ruche, c'est que je vais faire une ruche. Ça, c'est là où il y a les abeilles. Je vais faire le soleil. Voilà, mettons que le soleil il est là. Je vais faire des fleurs, parce que c'est la même chose pour trouver les fleurs qu'il faut aller butiner à tel jour, à tel jour. Enfin, celles qui sont prêtes à être butinées, disons. Oui, je ne vous ai pas dit, mais pour un kilo de miel, en gros, alors là il y a 1,5 kg. Mais pour 1 kg de miel, elle visite et donc elle pollinise 10 millions de fleurs à peu près. C'est un travail énorme. Et ça, en déplacement, ça représente 10 fois le tour de la Terre pour faire 1 kg de miel.
10 fois le tour de la Terre.
Mais bon, elles sont nombreuses, mais quand même. Et donc elles se déplacent beaucoup d'allers-retours, parce qu'à chaque fois, elles prennent une toute petite goutte de nectar. Et on ne pourrait pas remplacer l'abeille ou d'autres insectes pollinisateurs, mais pour le sphère du miel, c'est surtout l'abeille. Parce que la fleur, de toute façon, elle ne ferait pas plus. Il y a des choses qu'on peut extraire de la fleur, comme pour faire des huiles essentielles. On les fait bouillir, on les presse, on fait plein de choses. Mais là, la goutte de miel, la fleur fait une petite goutte par jour. Donc il faut, ou à plusieurs heures de la journée, ça dépend des fleurs. Certaines fleurs, c'est à telle heure, une petite goutte. D'autres, c'est dans la journée. Mais une fois que l'abeille est passée, il n'y a plus rien pendant un petit moment. Il faut revenir pour prendre la petite goutte. Il y a des glandes nectarifères. En fait, c'est pour attirer, évidemment, c'est pour attirer les insectes, pour être pollinisés, peu importe que ça. Mais donc, ça fait beaucoup de visites. Et il faut savoir où sont les fleurs. Et après, il faut revenir à la ruche. Une petite abeille qui va à 2 km, imaginez-vous que... Pour la taille de l'abeille, pour retrouver la ruche, pour déjà savoir où aller, quand il y a une nouvelle floraison quelque part intéressante. Et c'est, ça va être ce, ce moyen-là, c'est grâce à un GPS, donc elles ont dans la tête. Alors je vais faire les traits. Voilà le soleil, voilà les fleurs, voilà les abeilles. Le soleil, mettons qu'il est 16h. Il est 16h, le soleil il est là. Par position de la, par rapport à la ruche, les fleurs, mettons que c'est un bois d'acacia qui commence à fleurir. Oh, c'est là. C'est par rapport au soleil, c'est mettons 40 degrés, un angle de 40 degrés. Alors, la butineuse.
Ah oui. Pardon.
Voilà. Et la butineuse, elle trouve ça, c'est ouais, super. Bon, si c'est pas très intéressant, elle en prend un peu, mais si c'est vraiment intéressant, elle en prend, elle revient à la ruche, et tout de suite, elle le dit, parce que dans la ruche, elle passe leur temps à communiquer. C'est toujours, quand on regarde avec une ruche vitrée, c'est impressionnant, elles sont toujours en train de se toucher les antennes et de communiquer. Moi, ça m'a fait penser, des fois où j'ai vu des basketteurs qui ne communiquent pas beaucoup, mais un peu quand même, et quand ils marquent des paniers ou ils sont contents, des handballeurs, ils se touchent la main. Mais quand on regarde une ruche, c'est ça en permanence. Tout le monde est en train de se toucher, se taper l'épaule et de se dire quelque chose, on ne comprend pas bien quoi. Mais en tout cas, celles qui reviennent, elles vont tout de suite aller sur un cadre de ruche, mais en bas, elles ne montent pas. Voilà, ça c'est les cadres comme j'ai mis là. Et puis, elles vont faire une danse sur ce cadre de ruche. Alors, la danse, je vais la faire en bleu. Alors là, c'est la verticale du cadre. C'est dans l'obscurité, mais comme elles se sentent, elles se touchent, elles vont pouvoir les suivre. Eh bien, par rapport à si le butin, par rapport au soleil, on appelle ça le butin, nous. Bon, butinage, butin, bon. C'est les humains qui font comme ça. Alors 40, eh bien, elles vont faire un angle de 40. Elles vont indiquer cet angle par rapport à la verticale. Alors elles vont indiquer l'angle de 40 degrés. Donc elle arrive en bas, elle marche comme ça. Et puis après, elle va revenir là. Et dans cet angle-là, donc ça va. Voilà, 40 degrés. Ça va indiquer qu'il y a quelque chose de très intéressant par rapport à la position du soleil à 40 degrés. C'est déjà une information. Mais maintenant, c'est quand même différent si c'est à 200 mètres ou à 2 km. Et là, elle va faire une autre danse. Elle va aller comme ça, là, en cercle. Puis, elle va refaire ce truc de 40 degrés. Puis là, elle va aller dans l'autre sens. Et quand plus c'est élargi, ça veut dire que plus c'est... Plus le diamètre est grand, plus il est petit, ça va signifier la distance, je crois. Plus c'est grand. Plus elle va frétiller, être contente, vibrer, on dit la danse frétillante, plus ça veut dire que ça va être très intéressant. Et donc en 2-3 passages, elle a tout dit. Et en plus, elle donne une goutte de... C'est mon frétillement. Et en plus, elle donne un peu une goutte de nectar de son jabot pour bien confirmer, pour être sûr que l'information passe bien. Et là, il y en a plusieurs qui la suivent. Hein. Mais ça ne suffit pas. C'est les plusieurs qui la suivent qui vont tout de suite aller là-bas. Et après, elles vont revenir et elles vont confirmer ou non. Et si ça frétille encore plus, ça va confirmer encore plus. Et en fait, ça va très vite. Et d'ailleurs, si je laisse ce cadre de miel là dehors, au début, on verra une abeille. Une heure après, on risque d'en voir beaucoup plus. Hein. Sauf là où elles sont occupées ailleurs, et ça va prendre du temps parce que si elles sont bien occupées ailleurs.
Alors, elles ne sont pas gênées par le fait que l'angle, il varie l'angle.
Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, dans la ruche, en fait, elles n'indiquent pas 40 degrés parce que le soleil, il a tourné. Peut-être il est dans le même. Et elles anticipent.
Une horloge.
Elles ont une horloge, savent exactement où est le soleil. Donc elles vont le dire dans la danse, elles vont faire l'angle qu'il y a au moment précis où elles font la danse. Et les butineuses, elles aussi, elles vont savoir que le temps qu'elles y aillent, surtout quand c'est loin, le soleil aura encore bougé. Donc ça sera peut-être 40 degrés dans l'autre sens, le soleil sera là. Et bien elles savent que par rapport au soleil, il faudra faire. Et ça, elles ont tout un système de repérage dans la tête. Oui, c'est carrément extraordinaire. Et elles vont faire... Ça, c'est le côté, l'appareil pour se repérer. Après, il y a l'appareil pour décider si elles y vont ou non. C'est ça, le côté démocratique. Mais l'appareil pour se repérer, c'est déjà... Bon, c'est ça qu'avait trouvé le Karl von Frisch. Et maintenant, on a compris qu'elles font aussi ce genre de travail pour chercher un nouvel endroit. Les fameux l'essaim d'abeille qui est sur sa branche, là. Eh bien, il va danser pareil sur la surface. Il y en a qui vont la suivre. Et en disant, oui, il y a tel endroit, et plus ça frétille, il y en a d'autres qui vont aller voir. Alors ça, ce sont les butineuses qui font ça. Mais il y a aussi, pour aider un peu à la décision, il y a 80% de butineuses qui font ça, qui suivent, qui vont y aller pour vérifier, mais en même temps pour commencer à ramener du nectar. On n'y va pas pour rien. Oui, dans la ruche, il y a toujours des danses comme ça, en fait, parce qu'il n'y a pas que... Là, je parle de la cassa, mais comme il y a plein d'autres fleurs, et une ruche, c'est rare qu'elle va butiner une seule sorte de fleur, surtout au printemps, à part s'il y a une grosse mielée pendant quelques jours, mais normalement, elles vont aussi aller ailleurs. Là, en ce moment, nous, je récolte un peu de pollen dans des ruches, on voit ce qu'elles ramènent sur les pattes. Il y a quand même pas mal de... Elles vont sur des plantes très différentes. Par contre, le groupe d'abeilles qui va sur une plante va continuer d'aller sur la même plante pendant que cette plante fleurit. Et ça, c'était indispensable pour son rôle de pollinisatrice, parce que si une abeille va, dans la même journée, aller un peu sur de l'amandier, puis des pêchers, puis les abricotiers, le pollen d'amandier sur les pêchers, ça ne fera pas grand-chose. Donc une abeille qui commence le matin sur une fleur, elle va continuer toute la journée là-dessus, jusqu'au moment où la source se tarit. Et alors dans la ruche, il y a beaucoup de danse à des endroits différents. Ça aussi, c'est assez complexe. C'est pas juste des abeilles que tout le monde va aller à un endroit. Et c'est toujours cette discussion, qu'est-ce qui est le plus intéressant. Et notamment, cette histoire-là, s'il y a un petit bosquet, s'il y a plusieurs ruches, soit d'apiculteur, soit même avant qu'il y ait l'homme, c'était les ruches sauvages, où il y en a encore un peu. Il y en a une qui dit que oui, c'est formidable, mais il y en a une autre qui y va, qui dit donc qu'il y a déjà du monde. Hein. En plus, elles vont même se passer des messages entre elles. C'est ce que tu disais tout à l'heure. À l'intérieur de la ruche, elles peuvent se passer des messages, mais même en butinant. Elles peuvent sentir que ce n'est pas des abeilles de la même colonie. Et bien, elles vont pas frétiller tant que ça. Même carrément. Il y en a qui, après, c'est ça qu'on a découvert récemment. Alors, je vais vous dire le nom du gars qui a découvert ça. Là. Celui dont a parlé Eric Amessen. Là. Et c'est Thomas Sillé. Il a passé sa vie, c'est un disciple de Karl von Frisch. Il passe sa vie à étudier, c'est un autre éthologue, à étudier comment les abeilles choisissent. Et donc, non seulement elle apporte la formation, ça c'est le côté positif, mais elles peuvent aussi apporter la contradiction. Elle dit non, il ne faut carrément pas y aller. Ou si par exemple il y a un coin vraiment intéressant, mais ça peut arriver, il y a plein d'araignées ou autres risques pour les abeilles, des nids de frelons à côté, qui disent tiens, les abeilles qui viennent butiner, on y va, parce qu'ils mangent les abeilles. Eh bien. Celle qui arrivera à revenir va dire non, il ne faut surtout pas y aller. Et si vraiment c'est grave, alors là je vais prendre les deux petites abeilles. Là il y a celle qui tourne sur le cadre, qui fait sa danse, qui dit oui, si, il faut y aller. Et bien il y en a une derrière qui double tout le monde et qui tape sur la précédente, c'est ce qu'il a observé. Et plus elle tape fort, plus l'autre devant se dit « oui, là, alors j'hésite », et assez vite, en fait, elle arrête, et elle n'indique plus la situation. Parce que si l'autre tape fort, c'est que quand même, il y a vraiment une raison. Mais peut-être il y en a une autre qui revient, qui va refaire la danse, mais il y en a une autre qui va taper. Et donc il y a les deux signaux positifs et négatifs. Et normalement, ça se résout très vite. Hein. Soit finalement c'était une alerte passagère, on peut y retourner. Soit, non, il ne faut vraiment pas y aller. Voilà, on n'insiste pas. Oui, c'est ça qui permet d'être si opérationnel, de toujours butiner, de trouver des endroits intéressants. Oui, alors c'est les butineuses qui font ça, mais après, il y a quelques butineuses qui, à la fin de leur vie, sont encore bien capables de butiner, mais qui décident, là aussi on ne sait pas trop pourquoi, c'est toujours ce Thomas Sillet qui a trouvé ça, comment ça se décide, qui vont devenir que éclaireuses. Elles vont plus récolter du nectar, elles ne font que chercher des nouveaux endroits. Elles partent, et puis quand elles sont épuisées, elles reviennent, ou elles vont butiner un peu pour prendre un peu de miel pour tenir le coup. Puis elles reviennent, elles reprennent un peu de miel aussi dedans, mais elles repartent, elles ne font plus que le travail d'éclaireuse. C'est 20% à peu près. Mais celles-là, en général, elles s'occupent de trouver les nouvelles sources de nectar. Parce que les butineuses, elles se concentrent à aller ramener... Enfin, je dis du nectar, c'est de l'eau, c'est de la propolis. Alors la propolis, je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
Non.
C'est un mélange de... En fait, à l'origine, ce sont des résines qu'il y a sur les bourgeons d'arbres, qu'elles arrivent à prendre, mais elles vont le mélanger, elles ramènent cette résine qui est assez complexe déjà, elles le mélangent avec un peu de cire. Et ça sert à... Au départ, on pensait juste que ça sert à boucher les trous, parce que ça fait une pâte qui tient bien, mais en fait, c'est un antibiotique naturel pour pas mal de choses. Or, il y a quand même 50 000 abeilles dans un espace très restreint, il peut y avoir beaucoup de maladies qui se développent là-dedans. Donc ça maintient un état sain dans la ruche. Et c'est un antiseptique, c'est vendu en pharmacie maintenant, c'est de plus en plus utilisé d'ailleurs.
C'est très bon pour les gorges.
Oui. Donc j'en parlais des Égyptiens, mais d'autres gens l'utilisent aussi, par exemple pour les violons Stradivarius, comme Verny. Parce que ça protège tout en gardant vivant. Ben, c'est le principe pour les momies aussi d'ailleurs. On garde les tissus sains, mais ça protège bien en même temps. Ça nourrit en même temps, sans entrer en putréfaction. Donc elle ramène la propolis. En général, on en voit sur les cales. Là, il y en a. C'est les petits trucs oranges là qu'il y a. Bon, souvent dans les ruches, pour pouvoir le reprendre facilement, elle le mélange avec un peu de cire. Donc elles vont chercher ça, elles sont très friandes de propolis. Bien sûr le pollen, le miel et puis l'eau. Parce que pour les bébés abeilles, il faut beaucoup d'eau. Il faut maintenir de l'humidité. Ou alors c'est au moment des mielées, là elles ramènent le miel. Le miel, c'est le nectar des fleurs. Là il y a 50% d'eau. Donc elles évaporent l'eau du nectar, mais du coup ça permet d'humidifier la ruche. Le couvain des abeilles. Et elles arrivent à sécher le miel. Ça passe de 50% d'eau à 17% d'eau. C'est très très peu en alimentation. Le blé, je crois qu'il est à 15%. Le blé est sec. Hein. C'est quand on est très proche de la quantité des céréales qu'on récolte. Donc c'est très... c'est elles qui font ça, qui arrivent à sécher le miel. Et en même temps, à garder l'humidité pour les bébés abeilles. Bon, elles font ça parce que comme ça, le miel se conserve. Un miel bien sec, ça se conserve. Alors, ce qui était intéressant, donc c'est très important de toujours suivre pour elles, dans cette vie extérieure, de toujours bien suivre là où il y a les fleurs. Des fois, les fleurs ne durent pas longtemps. Des fois, il pleut, on ne peut pas sortir, donc elles sont organisées comme ça. Moi, je vois, là, j'ai porté des ruches à l'acacias. Même après 30 ans d'apiculture, je suis toujours émerveillé. J'ai pris des ruches qui étaient sur des plateaux de romarin, tout avait gelé, c'était triste. Mais je m'étais dit, bon, ben, ok, ça ne fera pas de romarin, mais elles vont se maintenir. Il y a quelques pluies, il y a des fleurs d'un peu de thym, un peu de ciste, un peu de toul. Mais en fait, c'était forte colonie. Elles souffraient vraiment. Elles arrivaient juste à maintenir leur couvain, enfin non, à le développer, mais il n'y avait aucune provision. Quand je suis allé les voir il y a une semaine, elles ne sortaient pas. Il y avait très peu, il y avait quelques butineuses, mais vraiment pas grand monde. Ces mêmes ruches, je les ai portées dans des foyers d'acacia en Ariège. Je suis retourné 3 jours après. Ça avait plus rien, c'était plus les mêmes bêtes. Devant chaque ruche, il y avait des milliers d'abeilles qui rentraient et qui sortaient. Toujours très bien organisé. On appelle ça couloir de vol, planche d'envol. Très bien. Pas d'accident. Mais une activité incroyable. Alors que pendant plusieurs mois, enfin pendant l'hiver, pendant plusieurs mois, ça, en fait, elle s'économisait. Et là, il y en a qui ont trouvé la cassa. Il faut dire que ce n'était pas difficile, j'étais au milieu. C'est des très grandes forêts de centaines d'hectares d'acacia. Et donc, ça fait plaisir à voir. elle se refont une santé. Oui, ce côté démocratique qui est très intéressant, c'est donc il y a toujours une discussion entre elles, entre les vieilles, les butineuses, pour aller quelque part ou non. C'est un peu difficile pour préciser là, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez remarquable.
Par rapport à la bête, c'est simplement un plieur pour elle, sinon on s'organiserait pour se défendre. Il y a un échange, comment ça se passe? Sinon j'y voyais.
Comment je vois
la relation,
Oui, nous on a un côté, mais pour tout ce qu'on. Nous, on, les êtres humains, on a un côté pilleur. Tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a des pilleurs de court terme qui pillent et qui ne s'occupent pas de ce qui se passe après. Mais notre intérêt, c'est que pour les apiculteurs, c'est que les ruches se portent bien. Donc on va en même temps prendre soin. Bon, par contre, on n'est pas insecte, mais on prend soin autant que possible des abeilles. Et on pense que nous, êtres humains, on fait de mauvais par ailleurs. On essaye. Il y a des choses qu'on peut compenser. Et puis, il y a apiculteurs. Il y en a qui vont prendre tout le miel et donner que du sucre. Et il y en a qui vont toujours leur laisser au moins pour passer l'hiver, qu'elles aient leur provision de miel. Bon, il y a beaucoup de degrés.
Une bonne symbiose entre les deux.
Elles n'ont pas besoin de nous. Mais nous, on fait de l'élevage.
Voilà.
Elles n'ont pas besoin de nous, mais on fait de l'élevage. Et heureusement qu'il y a des éleveurs maintenant, parce que les abeilles ont une vie difficile par ailleurs, là, pour plein de raisons. Alors, un des gros problèmes pour ça. C'est d'autres scientifiques qui ont trouvé ça, c'est les pesticides, notamment les néonicotinoïdes ou quelque chose comme ça. Parce qu'on s'est rendu compte que ça ne tue pas les abeilles, il y avait les essais faits, donc ils ont leur AMM, les autorisations de mise sur le marché. Mais en fait, on s'est rendu compte maintenant que quand même à dose infime, les doses qu'elles retrouvent sur des pollens de fleurs, eh bien ça fait qu'elles perdent... Enfin, ça affaiblit leur capacité de se retrouver dans l'espace. Or finalement, bon, il y a le côté élevage. Nous, apiculteurs, on s'occupe surtout de ce qui se passe dans la ruche. Par contre, pour le côté butinage, là, c'est elles qui gèrent ça entièrement. On ne va pas leur dire, il faut aller là et pas là. Si, on peut mettre les ruches quelque part, ça oui. Mais après, comme moi, je les mets dans la forêt d'acacia. Mais après, c'est à elles de se retrouver et de retrouver tout de suite leur propre ruche, de ne pas se tromper. Et c'est un des gros problèmes là, une des raisons des pertes d'abeilles. C'est pas la seule, hein, mais c'est une des raisons. C'est de pas arriver à bien se repérer. Et donc, il y en a une partie qui n'arrive pas à revenir à la ruche. Alors, surtout quand c'est des butinages lointains, bien sûr.
Donc,
Et là, une abeille, elle peut toute seule, elle, c'est rigolo à voir. Dès qu'il y a plusieurs abeilles qui se rencontrent, elles, c'est un peu comme les brebis, elles ont un instinct grégaire aussi. Bon, il y a un instinct famille dans la ruche, mais elles sont... S'il y a un groupe d'abeilles quelque part, après, elles vont toutes être ensemble. Mais après, elles vont mourir, parce qu'en fait, ce qui peut vivre plusieurs années, c'est vraiment la colonie d'abeilles, avec la reine et les abeilles, qui chacune fait son boulot. Il y a une entité là, il y a un autre individu. En fait, c'est l'individu supérieur, c'est cette colonie d'abeilles. Ce qu'il n'y a pas trop aussi, il y a ça, voilà, avec les fourmis, les termites. Bon, je pense ce qui nous fascine, nous, les humains, c'est qu'en plus, bon, les fourmis, on gronde des fois. Enfin, moi, je gronde, ça va bouffer le bois, ça va... Les termites, c'est pire. Quand on a des termites dans les maisons, on n'est vraiment pas content. Tandis que les abeilles, ça pollinise les fleurs. C'est quand même un côté assez magique, là, que ça fait rêver. Alors que les guêpes, c'est un peu... C'est des cousines, c'est proche, hein, les guêpes, les frelons.
Ça pollinise aussi ?
Pas trop, c'est surtout que ça mange les abeilles, entre autres.
Les guêpes aussi ?
Les guêpes aussi, un peu. Elles peuvent rentrer... Ça mange de tout, c'est omnivore. C'est insectivore. Et ça mange... Ça peut manger des fruits. Des fruits bien mûrs, sucrés, ça, ils aiment bien aussi. Non, ça ne pollinise pas tellement. Les insectes vraiment intéressants au point de vue pollinisation, il y a les abeilles. Et ce qui se complète bien, c'est les bourdons, les bombus.
Les larges, là les...
Oui, les mignons, là, les gros lourdeaux poilus, avec des couleurs oranges.
Oh, oui, c'est ça. Pas les noirs.
Peut-être les noirs aussi. Mais les oranges, c'est carrément recherché maintenant. C'est même... Parce que le problème de ces pesticides, c'est que ça fait pas... C'est pas seulement sur les abeilles. Nous, on le voit, nous, en tant qu'apiculteurs. Mais c'est tous les insectes pollinisateurs, donc les bourdons aussi. Donc maintenant, il y a des gens qui... Il y a des centres en Europe, des élevages de bourdons. Ça se vend assez cher, la boîte de petites colonies de bourdons, pour des pollinisations. Je ne sais pas trop lesquelles. Mais d'ailleurs, il y a des apiculteurs qui maintenant font leurs revenus pour les pollinisations. Oui. D'arbres fruitiers, il y en a, c'est carrément indispensable. Et il y en a où c'est pas indispensable, mais disons que ça, c'est mieux pollinisé, donc il va y avoir plus gros et de meilleure qualité, qui se garde mieux.
C'est la qualité du fruit.
Oui, la qualité du fruit. Donc, bon, c'est surtout aux États-Unis, il y a des gens, de plus en plus d'apiculteurs qui ne vivent que de ça. Je crois qu'ils se font payer $100 par ruche pour une pollinisation de 15 jours, 3 semaines. Donc, ils gagnent plus qu'à faire du miel. Par contre, la ruche, elle est en mauvais état après. Parce que comme c'est malgré tout des plantes qui ont été traitées ou avant, ou des sols qui ont été traités, alors il faut qu'ils refassent des essaims. Là, je plains un peu j'aime pas ce genre d'apiculture, mais bon, il en faut, quoi. Chacun. Comment ?
Il faut des pépinières bio, mais voilà.
Ouais. Ouais. Moi, je suis en bio pour le miel. C'est pas ce qui est difficile. Ça va pour les cultures sauvages, mais des cultures fruitières. Vu que les abeilles vont dans un rayon de 3 km, ça fait 3000 hectares. C'est pas... Je ne peux pas faire du miel bio facilement. J'en fais sur du certifié, je veux dire. Bon, on a le droit de faire... On peut avoir des ruches qui vont faire du miel en étant bio, si nous, on ne met pas des produits dans les ruches et qu'on ne nourrit pas avec des... Il faut que ce soit nourri avec des produits bio, ou si on intervient, il faut que ce soit avec des produits bio. Ça, on peut... Et par contre, si les abeilles vont faire du miel, ben ça sera un miel déclassé. Selon, on le vend comme du miel conventionnel. Par contre, je fais quand même du tournesol bio parce que j'ai trouvé une grosse propriété. Alors, il y a près de 260 hectares. C'est d'un seul tenant. Bon, c'est pas beaucoup, hein, vu que l'abeille fait 3000 hectares. Mais si là-dedans il y a 60 hectares de tournesol et que moi je mets mes ruches au milieu, elles n'ont pas besoin de... Il faut le mettre quand ça commence à fleurir. Et elles n'ont pas besoin d'aller ailleurs. On dit que pour une culture, c'est une ruche par hectare, là on est sûr, on est tranquille. Même jusqu'à deux ruches par hectare. D'ailleurs, les gens qui veulent être pollinisés, c'est ça qu'ils demandent. Pour un hectare d'amandier, c'est une ruche par hectare. Quelqu'un qui a 20 hectares, il prendra 20 ruches, disposées justement aux endroits adéquats. Pas mettre en bordure, mais carrément mettre dans les vergers.
Oui, parce que sans qu'elles ont ce qu'elles veulent, elles vont pas.
Voilà, c'est juste, c'est la seule chose où on peut. Après, on peut pas leur dire, il faut aller là et pas là. Ouais. Il y a des gens que ça marche un petit peu. C'était les Russes dans les années soviétiques. Il y avait des fermes. Ils ont fait plein de recherches, les Russes, à cette époque. Il y avait des fermes qui ont fait beaucoup de recherches sur l'abeille. Et alors, ils ont essayé de dresser les abeilles avec des parfums et ils leur donnaient à côté des ruches, un peu plus loin, mettons les ruches là, là-bas, de mettre des grands bacs avec des parfums différents, dont des parfums de plantes, et sur un parfum de plante, là, du miel ou de l'eau sucrée. Sans doute plutôt de l'eau sucrée qui n'a pas d'odeur. Et un parfum de plante. Et là, elles sont dressées au parfum. Et pendant un petit moment, ça marche. Après, si on les met à un endroit où il y a la culture avec ce parfum-là, elles vont y aller. Mais c'est un leurre, ça va marcher. On peut pas. Elles gardent l'instinct sauvage, quoi. C'est pas. On peut pas les leurrer longtemps. Là. C'est.
Quelle est la répercussion sur une ruche de l'intervention de l'homme? Je veux dire, si on laisse une ruche vivre par elle-même, et par rapport au fait que l'homme prend son miel, quelle différence
il y a? En fait, là, curieusement, il y a une différence sur comment l'homme va agir. Mais sur le miel, il n'y a pas tant de différence que ça. Parce que, en gros, une colonie qui vit sa vie, si on la laisse tranquille, on dit qu'elle a besoin de. Dans sa vie, elle va consommer 100 à 150 kilos de miel, une colonie. Et. Naturellement. Elle consomme surtout au printemps, et puis ben, elle va consommer quand même toute l'année. C'est du miel d'ailleurs qui est rarement stocké, c'est du miel qui rentre, qui est consommé, qui est stocké autour du couvain. Alors là, c'était un cadre dehors, mais là, c'est un cadre. Si vous voulez, j'avais un joli cadre. Celui-là, il est moche. Bon. Il y a les bébés abeilles qui sont là et elles mettent du miel. Il y a toujours du miel en continu là. Mais il est consommé, ils en ramènent, il est consommé. Et comme ça, et plus la provision pour l'hiver. En général, pour l'hiver, c'est 15-20 kilos dans nos régions. Et ça, au total, avec ce qu'elles consomment, c'est 150 kilos. Nous, ce que récoltent les apiculteurs, c'est quand on dit ce qu'on appelle une forte mielée. Et dans ce cas-là, elles ont l'instinct d'amassage. Ça, c'est un côté un peu particulier de l'abeille. C'est en prévision, on ne sait jamais, l'hiver est tellement rigoureux, que du moment qu'il y a du miel, elles vont continuer à le stocker beaucoup plus qu'elles ont besoin. Et dans ce cas-là, dans la hausse, alors une ruche, il y a là, mettons que ça ce soit la ruche, après la hausse, bon, normalement c'est plus grand, ça c'est une hausse qu'on met au-dessus, et là, elles vont mettre. Elles vont en mettre plus. Et si ça compte une mielée, elles vont en mettre plus. Et c'est là-dedans, c'est ce qu'on récolte. Mais elles vont le faire seulement dans la forte mielée. Et en gros, la moyenne. Alors en France, c'est entre 10 et 20 kilos. Ça dépend vraiment des régions, des années, des périodes. 10 à 20 kilos par an, si on compte le nombre de ruches qu'il y a en France et la quantité de miel récoltée. C'est à peu près 10 à 20 kilos. Alors, c'est à peu près ça le rapport. Donc, on récolte, mettons, 15 kilos par an. La ruche, elle récolte, mettons, 150 kilos. C'est un dixième. Ça ne représente pas tant que ça. C'est plutôt les interventions de l'homme sur au moment de faire ça, la manière de le faire, des produits, comment on s'occupe des abeilles, si on change leur reine, là, ça va affluer beaucoup.
Okay. Du coup, si l'homme n'avait pas intervenu là-dessus, c'est-à-dire que s'il n'avait pas mis une ruche, qu'elle aurait fait le tour en bas de la truffe.
Alors, en cas de forte mielée, ça essaime, normalement.
Ça essaime, d'accord. Donc en fait, l'intervention de l'or en étant des bulles, on limite également en fait chez les sémages, du coup, la propagation naturelle des abeilles.
On limite, oui.
On limite, oui. Parce que ce serait raisonnable, du coup, que de demander aux apiculteurs, voire même de légiférer, en fait, qu'il y ait une partie, en fait, de double châtel, en fait, qui puisse avoir une vie naturelle pour essayer de réduire le problème qui aujourd'hui est énorme, en fait, de la mortalité des abeilles.
Ouais. Enfin là, je pense pas que ça fasse grand. Là où il faudrait intervenir le plus, c'est sur ces papons pesticides. C'est parce que les abeilles se développent et s'aiment plus. Si elles s'empoisonnent plus, ça changera pas le problème de fond du problème. Et ça, elle sème quand même. Hein. Heureusement, l'instinct des sémages, elle le garde. Hein. Alors, même si nous, on leur met dehors, ça sème moins. Mais ça sème au point qu'il y a des... Moi, je le laisse essaimer, personnellement. Et je me fais des essaims avec mes bonnes souches. Dans ce cas-là, mettons, pour simplifier, une bonne souche, c'est moi qui vais anticiper avec une bonne ruche. Au lieu que ça sème, je vais, bon, vraiment pour simplifier pour l'auditoire, là c'est pas un cours d'apiculture, je vais la diviser, je vais prendre un essaim, mettre dans une autre ruche. Mais sinon, ça je le fais sur mes bonnes souches, mais il y en a qui vont essaimer malgré moi. Ouais, là je laisse faire. Mais ça change pas que j'observe, je suis l'âge de mes reines. Je vois qu'avant elle vivait, alors quand j'ai eu mes premières ruches en 1976-77, je me souviens des reines, ça vivait vraiment 4-5 ans, c'était pas des blagues. Et maintenant, c'est plutôt 3 ans, et des fois exceptionnellement 4 ans, c'est exceptionnel. Et il y en a des reines de l'année précédente qui n'y arrivent pas. Et ça, c'est lié à pas mal de choses, c'est l'alimentation. C'est lié, il y a un problème apicole, qui est un parasite, le varroa. On en avait parlé là, avec quelques-uns dans l'assistance. C'est un parasite qui est arrivé... alors en France, il est arrivé en 1985, enfin dans l'Aude. C'est là que j'ai fait mon installation jeune agriculteur avec les ruches. C'était la même année, donc ça m'a marqué là. Parce que j'ai connu l'apiculture avant le varroa, c'est un petit acarien. Et donc j'ai connu presque 10 ans d'apiculture avant, et puis j'ai connu depuis. Et c'est beaucoup plus difficile. Et ça, c'est typique une des erreurs de l'homme, hein, puisque c'était un parasite, non pas d'Apis mellifica, mais Apis serrana. Alors Apis mellifica, je l'ai dit, c'était il y a 30 millions d'années. Mais il y avait d'autres types d'abeilles qui s'est à partir des abeilles d'origine. Il y a eu beaucoup de types d'abeilles. Et Apis serrana, elle amasse pas du miel.
Et elle vivait en
Asie. Elle déménage tous les 6 mois.
Oui, c'était en Asie.
Et c'est vraiment... elle a un rythme de vie beaucoup plus court pour faire les abeilles. Et quelque part, avec le varroa, ça se complète bien. Enfin, c'est normalement un parasite, d'ailleurs. Respecte son hôte, tu passes son hôte. Et là, c'était deux choses qui se complémentaient. C'était dans l'île de Java, en Indonésie. Et il y a des petits malins qui ont voulu introduire Apis mellifica et qui se sont dit... bon, je ne sais pas exactement comment ça s'est fait. C'était il y a longtemps, il y a 40 ans, quelque chose comme ça. Ou volontairement faire des croisements, voir qu'est-ce que ça donnait. Si Apis mellifica n'allait pas s'adapter un peu mieux au climat là-bas en étant avec Apis serrana. En tout cas, le varroa, il est passé de Apis serrana à Apis mellifica. Il y a eu des transferts de ruches. C'est allé sur le continent européen, en fait. Ça a traversé l'Union soviétique à l'époque. C'est arrivé en Allemagne. Il y a eu les transports de ruches. Il y a les mâles aussi, les mâles d'abeilles. Parce que moi, j'ai parlé des abeilles qui font 3 km, les reines qui font 10 km. Mais toujours les Russes qui ont fait plein d'études, ils ont observé que les mâles... ils ont bagué les mâles d'abeilles et ils ont retrouvé les mâles 50 km plus loin un mois après. Parce que les mâles, ils se font accepter de ruche en ruche. Hein. C'est un cas où les abeilles ne peuvent aller que dans leur propre ruche, mais les mâles peuvent...
Il n'y a que des femelles,
Comment ?
Il n'y a que des femelles.
Dans les ruches, eh bien, Il y a, je dirais, une ruche 50 000 abeilles. Oui, il y a 48 000 ouvrières, on dit. Ouvrières, bichineuses, enfin voilà, femelles. Il y a 2 000 mâles environ. Et la reine. Et en fait, au départ, c'est le même œuf, mais les mâles sont des œufs non fécondés. Et c'est l'abeille qui fait, c'est la reine qui choisit de faire des mâles ou des femelles. Enfin, non, c'est pas que la, c'est l'ensemble abeille et ouvrière, parce que les, si les ouvrières veulent aussi plus de mâles, elles vont faire des cellules plus grandes, ça va inciter l'abeille à prendre des mâles, parce que les cellules de mâles sont un peu plus grandes.
Et donc les mâles, c'est
à vous de la fécondation. Oui, oui, il y a, je sais pas si vous connaissez la hulotte, c'est assez extraordinaire. Et il y a un truc là, un premier dessin. Là, tout au début, sur les mâles, là, petite bande dessinée. Alors, c'est un mâle qui discute avec un autre mâle. Alors, l'un, il lit le journal en fumant son cigare, et l'autre, il est dans son hamac en buvant. Alors, voilà le premier mâle qui dit « Écoute ça, bébère. Chez les humains, les mâles travaillent autant et même plus que les femelles. » Bon, ça, c'est encore une blague, peut-être. Et puis, l'autre qui dit sans blague, « Ils ne feront pas de vieux os, ces fous-là. » Parce qu'en fait, les mâles, tant qu'ils n'ont pas fécondé une reine, ils savent même pas se nourrir. Ils se font, c'est un peu comme la reine, ils se font nourrir par les abeilles, ils font pas grand-chose. Bon, y a des chercheurs qui ont trouvé que s'ils aident un peu à ventiler quand il fait très chaud. Mais il a fallu chercher longtemps quelque chose. Par contre, une fois qu'ils ont fécondé la reine, ils meurent. Ils meurent, ils perdent une partie. Donc ils servent qu'à ça et après. Mais pour féconder la reine elle vole haut. Les fécondations, ça vole, c'est très loin, très haut.
En vol ?
En vol. Et elle vole vite, même si elle sort qu'une fois, elle est bien équipée. Et donc les mâles, c'est. Il y a un côté un peu sportif, ça c'est le mâle le plus rapide qui arrive à féconder la reine. Et normalement, c'est un mâle qui est bien nourri, qui. Une vie saine. Il y a une sélection qui se fait comme ça entre
les. Il y a des moments où les reines se laissent pas féconder, c'est pas le moment
Quand elles sortent que pour se faire féconder. Par contre, normalement elles sortent à peu près 5 à 10 jours après la naissance. Et là, des fois, elles hésitent, elles se disent « Non, j'ai pas trop envie, le temps, c'est pas terrible. » Et c'est les abeilles qui disent « Si, vas-y, vas-y. »
Ah ouais.
Oui.
Va te faire féconder.
Va te faire féconder.
Je pense qu'on va arrêter. Désolée, on ne connaîtra pas la vie sexuelle des abeilles. Il est l'heure. C'est très intéressant, on peut rester là encore 2 heures.
Oui, oui. Bon.
Mais nous avons le concours de cuisine.
Ouais.
Alors, je pense qu'on peut vraiment applaudir Jérôme.